Nous voilà de retour et nous accueillons maintenant en direct du Palais des Congrès de Montréal où se déroule le 75e Salon de l'Auto, Ray Lalonde et la chronique Sport Business. Bien le bonsoir, Ray.
Salut Mario, ça va bien?
Ça va très bien, Ray. Hey, on va vraiment changer d'air à la chronique Sport Business ce soir parce qu'on va voir un petit peu en avant parce qu'on a parlé de tennis lors de notre dernière conversation avec évidemment le premier des grands chelems qui est en cours en Australie. Et la série, c'est-à-dire, j'allais dire, la course automobile va nous recommencer à nous captiver bientôt avec la Formule 1 qui recommence une autre année sous peu, là.
Ouais, ben, la raison que je veux te parler du sport automobile, Mario, c'est que ici au Salon de l'Auto, je pense que c'était approprié,
ben oui, tout à fait,
de parler du lancement. Les trois saisons s'approchent. La F1 qui commence le 23 mars, NASCAR et la IndyCar Racing. Alors, si on parle de la F1 pour quelques minutes, je veux souligner le fait que cette année, tu vas avoir 21 courses en F1. Ça commence en Australie. Et puis, je veux revenir sur les grands pilotes. Alors, que ce soit Lewis Hamilton, que ce soit Sébastien Vettel, que ce soit Fernando Alonso, pour parler un peu de ce que ces gars-là ont accompli. Alors, si tu regardes Lewis Hamilton, l'an dernier champion du monde, encore une fois, c'est un gars qui va être payé cette année qui vient au-delà de 40 millions de dollars en gains seulement sur les pistes. Il est quand même second derrière Sébastien Vettel, qui, lui, gagne 50 millions de dollars US comme pilote de F1. Alors, tu vois l'écart et l'important investissement que ça représente.
Son salaire, pas des commandites.
Ça, c'est son salaire seulement. Et je prends une équipe comme l'écurie Ferrari, qui est estimée de valoir 1,3 milliard de dollars. La raison pourquoi j'en parle, c'est parce que ça vaut ce que vaut une équipe de sport de haut niveau aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 1,3. C'est même très près de la valeur des Canadiens de Montréal. Et si tu prends la deuxième, par exemple, Mercedes ou McLaren, ça tourne dans les 600-700 millions quand même. Alors, la F1 est une business en grande santé. C'est la deuxième année de Liberty Media, Mario. Ils ont payé cette business-là 4,4 milliards de dollars. Et je pense qu'on va commencer à voir de plus en plus cette année, Mario, les changements stratégiques qu'ils ont vus et observés et réfléchis depuis déjà plus de 12 mois. Je pense qu'on va commencer à voir des courses de Formule 1 qui sont précédées d'événements pour une semaine complète, un peu à la Super Bowl, dans les grandes villes, de façon à créer plus d'engouement et d'aller se cultiver une base de partisans plus jeunes, Mario.
Qu'est-ce qui te fait croire ça? Est-ce qu'il y a eu des initiatives en ce sens? Est-ce qu'ils en ont parlé publiquement dans des revues spécialisées?
Oui, puis ils ont interviewé à plusieurs reprises des gars comme Sean Bratches, qui sont responsables de toute la mise en marché commerciale de la F1. Et tous les gens qui sont impliqués dans le pouvoir de décision, si on veut, de la F1, ont parlé le même langage, très à l'américaine, si tu me le permets, qui fait en sorte qu'on veut créer plus de contenu événementiel pour attirer des gens qui sont plus fans occasionnels. Pas des fanatiques de course automobile nécessairement, mais ceux qui veulent peut-être y aller pour l'événement,
ben oui,
et qui cherchent à trouver leur compte lors d'une semaine passée là.
Alors, des villes comme Monaco, Montréal, Melbourne en Australie, ça rime déjà avec une vision semblable. Je ne sais pas si on va étendre la période des festivités, parce que traditionnellement, tu sais, on sent que ça commence à bouger le mercredi. Le jeudi, là, tu sens vraiment une ambiance de plus en plus forte dans
exact.
Les endroits.
C'est un peu comme le principe du Super Bowl qu'on va voir à Minneapolis, oui, là, dans 10 jours, où à partir du lundi, on y va très fort en ville,
oui,
les rassemblements, les parties, ainsi de suite. Tu as la journée des médias qui est un grand rassemblement de toutes les équipes sur le terrain au US Bank Stadium. Alors, c'est un peu ce qu'on tente de créer pour faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui se dépense, plus de temps passé, évidemment, un impact économique beaucoup plus grand.
La valeur d'une écurie comme Ferrari, tu m'as dit 1,4 milliard. Ouais. Y a-tu des valeurs semblables en Indy ou en NASCAR?
Non. Ben alors, quand tu passes à la NASCAR, là, je veux te parler d'abord que NASCAR, c'est beaucoup plus que juste la série qu'on appelle le Monster Energy Cup, qui est la série des meilleurs. C'est quand même 1500 courses sur 100 pistes partout aux États-Unis et au Canada. Alors, nous, on a tendance à toujours regarder les grandes.
1500 événements.
Exactement. Mais ça commence avec le Daytona 500, qui
oui,
est un peu le parrain de toutes ces courses de NASCAR-là. Mais les équipes de NASCAR valent beaucoup moins cher. Là, on parle de 300-400 millions de dollars en valeur. Celles de Roger Hendricks, de Richard Childress, et ainsi de suite. Et les pilotes de NASCAR, à part de Dale Earnhardt qui a pris sa retraite, ou Jimmy Johnson qui faisait 17 millions l'an dernier, beaucoup moins payés, encore une fois, que les pilotes de la F1 qui font le tour de la planète.
Mais quand même, 17 millions.
Bonne business.
Mais il y en a qui ont des longues carrières. Hein,
bonne business, absolument. Tu peux y aller pendant longtemps et jusqu'à courir jusqu'à 40 ans si tu veux. Mais ça demeure une business qui est très nord-américaine à cause de la saveur unique de NASCAR.
Oui, et l'IndyCar, ben écoute, avant, il y a eu Formula Kart, Indy Racing League et tout ça. Il y a eu de l'évolution là-dedans. Mais qu'est-ce qui reste de cette formule-là, de cette série de monoplaces? Est-ce qu'elle est en bon état?
Là, en bon état, c'est Mark Miles, l'ancien chef de la ATP, dans les années 90 et début 2000, qui est le CEO maintenant, le président PDG exécutif de IndyCar. Ça commence le 9 mars prochain à Saint-Pétersbourg. La série est commanditée par Verizon. Alors, tu connais l'argent que Verizon met dans le sport aujourd'hui. C'est impressionnant. Donc, ils sont très bien appuyés par de l'argent commandite. Et il y a quand même quelques pilotes qui s'en tirent bien. Alors, NASCAR incluait Danica Patrick jusqu'à l'an dernier. Elle a pris sa retraite, elle aussi. Alors, eux aussi sont à la recherche de grands noms comme pilotes. Mais ça a sa place. La grande course, c'est le 27 mai, l'Indianapolis 500. Peut-être la plus grande course automobile au monde. Et ça demeure dans la série Indy. Alors, tu vois, ce sont quand même trois circuits qui opèrent de façon parallèle,
oui,
en même temps, de façon simultanée et qui réussissent très bien.
Mais il y a un grand appétit pour la course automobile aux États-Unis. Tu sais, je regardais en fin de semaine en tournant un poste, en attendant le football avec mon garçon. Tu sais, CBS présente Sports Spectacular. Bertrand Godin doit s'enfarger là-dedans de temps en temps également. Tu sais, des courses, des engins avec huit moteurs qui traînent une charge. Tu sais, je paierais pas pour aller m'asseoir dans un amphithéâtre pour regarder ça avec la boucane qui sort pendant 3-4 heures. Mais c'est fascinant comment c'est populaire. Hein?
Mais je pense que
c'est un moteur aux États.
Vous voyez, les Américains sont très fans et très passionné par le sport automobile, mais c'est aussi une expérience culturelle d'aller voir une course de NASCAR dans des stades qui contiennent 150 000 places. Et tu penses au Indy 500 qui contient 350 000 wow. places. Alors, tu comprends que là, on parle d'un match de football fois 3 et c'est pendant 2-3 heures qu'on se retrouve sur une situation comme ça.
Maintenant, passons de l'automobile et on va y revenir à l'automobile avec un des ambassadeurs du salon de l'automobile ici, du salon de l'auto, Bertrand Godin, qui est avec nous à quelques pieds de nous et qui va venir s'entretenir avec nous en fin d'émission. Maintenant, un mot sur les sénateurs d'Ottawa et leur situation économique, situation de l'amphithéâtre. On sait qu'on en parle moins, le projet de relocaliser l'amphithéâtre des sénateurs. Je ne sais pas si c'est un cul-de-sac avant que ça démarre. Quelle est l'actualité par rapport au dossier des sénateurs?
La raison pourquoi je voulais te parler des sénateurs, je suis allé voir un match récemment, il y a 2 semaines, durant la période des fêtes, Columbus contre sénateur, c'était plein. Et j'ai été...
Un samedi ou...
Non, un vendredi soir. Ah. J'ai été particulièrement impressionné aussi par la qualité de la présentation des matchs. Alors, là-dessus, je veux souligner quelque chose de très positif là-dessus. Ils ont gagné le match, ça a été un match exceptionnel, ça a fini comme 5-4. Les sénateurs connaissent des hauts et des bas. C'est pas toujours le cas où il y a 18 000 personnes dans les gradins. On est d'accord.
On a vu ça dans les séries
Mais ce que je veux dire, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que Ottawa est quand même dans une situation unique, Mario. On sait qu'ils cherchent désespérément à se relocaliser dans la région d'Ottawa, à Le Breton Flats, qui est littéralement au bord de l'eau, entre Gatineau et Ottawa.
Quel endroit ça serait?
Ça serait extraordinaire pour eux d'aller là. Ils n'ont pas encore toutes les approbations. M. Melnyk, le propriétaire, veut que le gouvernement ou un des paliers du gouvernement défraie la note, évidemment. Alors, c'est là qu'il y a un bug puis un bloc.
Un peu comme à Québec, ça a été le cas.
Et à Calgary actuellement, où ils ont beaucoup de difficultés à convaincre la ville et le gouvernement de l'Alberta de contribuer à ça. Mais c'est ça qu'ils recherchent. Et puis, c'est là qu'ils en sont aujourd'hui. C'est une semaine qui commence à être critique dans le sens que les sénateurs s'attendaient à avoir un peu de réaction, d'observation de la part de la ville. Ils en ont pas eu. Et il se fait tard. Ils connaissent une mauvaise saison. Les assistants sont à la baisse. Plus ils vont perdre, plus les gens vont rester à la maison et s'absenter. Et ça devient très difficile pour une équipe comme les sénateurs de survivre dans des conditions économiques comme ça. Surtout qu'ils ont un gars qui s'appelle Eric Carson qui, d'ici peu, sera agent libre. Puis on va devoir décider qu'est-ce qu'on fait avec lui et son gros salaire.
C'est fort intéressant et c'est drôle hein, parce qu'on parlait au plan hockey du cas de Matt Duchesne qui s'en va de Colorado sans qu'il y ait un joueur d'impact immédiat en retour. Colorado s'envole. Puis c'est pas de la faute à Duchesne, je pense que c'est circonstanciel. Absolument. Duchesne arrive avec les sénateurs et les sénateurs ont beaucoup glissé depuis ce temps-là. Ouais, c'est un casse-tête.
C'est un casse-tête, Mario, puis les morceaux s'interchangent pas toujours.
Non.
Mais il y a une chose qui est claire, parfois perdre un morceau, ça peut tourner vers... Un résultat, une résultante positive. Alors, c'est ce qui est arrivé avec l'Avalanche. Vraiment impressionnant le changement d'air là-bas, occasionné ou coïncidemment avec un départ. Je vais te parler aussi d'un décès important.
Oui, un décès qui
hier.
Cause beaucoup de remous. Là. Ouais, un homme qui s'en allait aux Olympiques avec exactement. L'équipe américaine de hockey.
Alors, Jim Johansson, il était avec l'équipe américaine en 88 et en 92 comme joueur. Il était l'adjoint au directeur exécutif. C'est lui qui était le grand responsable de la préparation de l'équipe USA qui s'en va aux Olympiques dans 2-3 semaines, à Pyeongchang. Il est décédé subitement hier à Colorado. C'est une lourde perte pour le hockey américain qui a connu un essor incroyable depuis 4-5 ans à tous les niveaux au hockey mineur jusqu'à l'équipe américaine, championnat du monde junior, équipe américaine évidemment aux Olympiques ou à la Coupe du monde et aussi les moins de 17 ans qui ont gagné le titre l'an dernier. Et c'est un peu grâce au travail de Jim Johansson qu'on va regretter beaucoup son départ. Il y a beaucoup d'amis dans le hockey, des dirigeants de partout dans la Ligue nationale qui ont eu une relation avec lui très positive et on va beaucoup s'ennuyer de son départ. Jim Johansson de USA Hockey qui est décédé hier.
Parlant de nouvelles dans le monde du hockey des Olympiques, Marie-Philippe Poulin, qu'on devrait recevoir à l'émission demain, officialisée capitaine de l'équipe canadienne. Et je ne sais pas si tu as pris connaissance des résultats de notre sondage aujourd'hui sur le compte Twitter du 98.5 FM et la réponse à la question que je posais. C'est-à-dire, est-ce que la question était la suivante, qui devrait diriger le Canadien de Montréal au terme de la saison en cours et la saison prochaine? Les choix de réponse étaient Marc Bergevin, étaient Julien Brisebois et Patrick Roy. Puis là, juste pour me le faire, je recherche ma page, mais on était à 1707 votes. Ça, je m'en souviens par cœur. Et dans les résultats, c'est Julien Brisebois qui arrive au premier rang. Julien Brisebois avec un pourcentage de 53%. Je l'ai 52%, donc 1707 votes. Patrick Roy, 24% deuxième rang. C'est pas scientifique, mais quand même beaucoup de gens qui ont pris la peine de répondre. 10% seulement pour le DG actuel. C'est une forme d'expression de mécontentement face à la situation actuelle, puis peut-être davantage. Et 14% disent, ben un autre candidat. Je sais pas si c'est un commentaire par rapport au reflet de peut-être d'une grosse partie de l'opinion publique, du mécontentement de l'opinion publique.
Ouais,
des
je
amateurs.
Pense que ce sont des bons résultats probablement symboliques de comment les gens se sentent et je pense qu'il faut aussi souligner que le nom de Julien Brisebois refait surface si souvent. J'ai travaillé longtemps avec Julien Brisebois au Centre Bell avec les Canadiens. C'est un gars qui est vraiment aguerri, qui commence à prendre l'expérience nécessaire. Travailler aux côtés de Steve Yzerman à Tampa, il a eu des bons résultats. Il y en a encore cette année. Ils vont peut-être remporter la Coupe Stanley cette année avec l'équipe qu'ils ont. Une chose qui est claire, c'est jamais facile pour un francophone d'arriver à son premier emploi dans un poste de pression comme ça à Montréal.
Alors, Marc Bergevin l'a vécu.
Absolument. Absolument. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que Julien va avoir son tour. C'est une question de temps.
Tu me dis-tu qu'il n'est pas prêt pour un marché comme Montréal?
Non.
Ce
que je te dis, c'est que pour lui, je pense qu'il peut travailler probablement plus aisément, plus librement, dans un contexte où le focus n'est pas sur lui comme francophone québécois, issu de la machine des Canadiens il y a 10 ans, avec Tampa Bay maintenant. Mm-hmm. Alors, c'est juste mon opinion personnelle. Je pense qu'à la fin, si c'est l'opportunité qui se présente pour Julien, il va être au rendez-vous, il va bien faire son travail. C'est un gars exceptionnel. Il faut lui donner la chance. Mais je pense que ultimement, un jour ou l'autre, que ce soit ici ou ailleurs, Mario,
il va l'être,
c'est sûr.
Alors, pourquoi ailleurs? On verra. On verra bien. Cela dit, Marc Bergevin est encore en poste et il n'y a pas d'indication que Jeff Molson ne lui fait plus confiance. Puis on verra ce qu'il prépare ou qu'est-ce qu'il va exécuter dans son plan. Alors, Ray, sur ça, tu avais-tu des petites choses à me dire avant de finir bien vite?
Une chose que je vais donner en petite vite. Là. Le président de Toronto FC a pris la relève comme président des Argos de Toronto hier. Et puis, une chose qui est claire de ça, Mario, c'est que soudainement, Toronto FC et les Argos sont sous la même famille de MLSI avec le même président qui va faire les deux jobs. Alors, on va voir des changements positifs vers les Argos, même en tant que champion de la Coupe Grey. Je pense que les assistances et le côté mise en marché des Argos va s'améliorer dès l'an prochain.
Ray, un gros merci sur ça. Une excellente soirée. Merci de ton passage aux amateurs et au salon de l'auto.
Avec grand plaisir, Mario.
À très bientôt. Dans un instant, nous accueillons l'ambassadeur. L'un des ambassadeurs, il n'a pas bébé, vous êtes... Le porte-parole, ambassadeur, porte-parole du Salon de l'Auto, Bertrand Godin, qui est avec nous dans un instant. Restez là.